Les deux muses. 1752. Argument. Vers la fin de la première moitié du XVIIIe siècle, l'étude et l'imitation de la littérature anglaise étaient très vives en Allemagne. Et Klopstock lui-même, l'ennemi des imitateurs, professait une grande estime pour les principaux auteurs anglais. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas une imitation servile de ces auteurs, c'est une imitation de leur indocilité aux joues des anciens. Pourquoi imiter et se traîner honteusement à la suite des Anglais ? La langue allemande n'est-elle pas assez sûre d'elle-même ? C'est ce qu'il cherche à insinuer à ses compatriotes dans cette fiction ingénieuse où il fait entrer en lice la muse allemande avec la muse anglaise. Il décrit dans cette ode, de la manière la plus heureuse, le mérite et les qualités de chacune des deux rivales. Mais par un détour adroit et gracieux, il laisse la victoire indécise. Cette ode a été traduite par Madame de Staël dans son livre sur l'Allemagne. J'ai vu. Oh, dites-moi, ai-je vu ce qui a lieu maintenant ? Apercevais-je l'avenir ? J'ai vu la muse de l'Allemagne entrer en lice avec la muse anglaise et voler avec ardeur au but de la victoire. Deux buts si éloignés que le regard les distinguait à peine s'élevaient voisins à l'extrémité de la carrière. Le chêne de la forêt ombrageait l'un, la brise légère du crépuscule agitait des palmiers autour de l'autre. Note. Le chêne est l'emblème de la poésie nationale et le palmier celui de la poésie religieuse. Accoutumée à la lutte, la muse d'Albion entra fière dans l'arène. Telle était déjà sa démarche, alors qu'elle s'avança sur le sable brûlant pour rivaliser avec la muse de Méonie et celle du Capitole. Elle vit sa jeune rivale tremblante. Cependant, son tremblement était viril. Une rougeur ardente et digne de la victoire colorait ses joues enflammées et sa chevelure d'or flottait sur ses épaules. Déjà, retenant à peine sa respiration pressée dans sa poitrine haletante, elle était comme suspendue vers le terme de la carrière. Elle attendait avec impatience le son de la trompette du héros. Son regard ivre de joie dévorait l'espace. Fière de ton audace, plus fière d'elle-même, la superbe Anglaise te mesurait d'un noble regard. Ô fille de Tuiscon! Oui, chez les bardes, dit-elle, je grandis avec toi dans la forêt de chênes. Mais le bruit m'était venu que tu n'étais plus. Pardonne, ô muse, si tu es immortelle, pardonne-moi de ne l'apprendre que maintenant. Cependant, c'est au but de la carrière seulement que je l'apprendrai. Il est là. Le vois-tu dans le lointain? Vois-tu aussi la couronne? Ce courage contenu, ce fier silence, cet œil enflammé qui se fixe à terre, je le connais. Cependant, réfléchis encore une fois avant que le héros donne le signal, trop plein de danger pour toi. N'est-ce pas moi qui déjà osais me mesurer avec la muse des Thermopyles et avec celle des sept collines ? Elle dit. Le moment grave et décisif approchait avec le héros. « Je t'aime !» dit, soudain, et le regard en feu, la muse de Germanie. « Je t'aime et t'admire, ô fille d'Albion, moins ardemment toutefois que l'immortalité et les palmes. Si ton génie te le permet, atteins-les avant moi. Si tu peux saisir cette couronne, qu'il me soit permis de la saisir en même temps que toi. Et, oh, comme je tremble, dieux immortels, peut-être arriverai-je plus tôt à ce noble terme. Oh, alors ton souffle pourra bien agiter ma chevelure légère et flottante. » Tout à coup, le héros sonna de la trompette. Elles s'élancèrent avec la rapidité de l'aigle. Sur la vaste carrière s'éleva un nuage de poussière. Je regardai. Devant le chêne, la poussière devint plus épaisse, et mon œil les perdit de vue.